la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi en le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute la liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ, je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il était inutile, mais maintenant il est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie. Lui qui est une partie de moi-même, j'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu ne le retrouves plus, que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, et il le sera d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. Et c'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne te demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Phras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Philémon. On voit notre ami ou l'apôtre Paul qui écrit cette lettre à Philémon. Philémon, c'est un ami. Et il va lui proposer une requête audacieuse. À propos d'Onésime. Onésime, c'est malheureusement l'esclave fugitif de Philémon. Et pour ce faire, cet esclave, Onésime, accompagne le porteur de cette lettre. Donc à l'époque, on apportait les lettres avec un porteur de lettres. Et Onésime va accompagner. Et Philémon, quand il va recevoir la lettre, il va peut-être pouvoir lire la lettre, baisser la lettre et voir Onésime en face de lui. Philémon va devoir prendre des décisions. Les premiers versets nous montrent que Philémon est un homme de foi et d'amour. Il est engagé dans l'Église, déjà d'une part en l'accueillant chez lui, et en plus en étant une force, une source d'encouragement pour les frères, pour les croyants. Et l'apôtre prie que cette foi, cet amour soit toujours plus visible, plus pratique dans sa vie, qu'il puisse se déduire, se manifester par des actes concrets dans sa vie de tous les jours. Et ceci sera un bon témoignage pour Christ. En écrivant sa lettre, Paul sait très bien que dans ce contexte de rencontre, de réconciliation, il va demander quelque chose à Philémon qui va l'amener à mettre en pratique, d'autant plus sa foi, ou passer peut-être à une autre étape. Il choisit de parler avec douceur, avec amour. Il n'aimerait pas que son geste soit forcé. Et vous savez très bien, si vous êtes forcé à faire quelque chose, combien ça sera plus difficile à faire. Vous le ferez avec moins de cœur, peut-être vous le ferez moins bien ou trop rapidement. Alors que si vous le faites de vous-même, vous serez engagé dedans, vous y mettrez votre cœur, vous prendrez le temps qu'il faut. Donc, Paul choisit de l'interpeller avec la douceur et l'amour. Et il veut que son ami, Paul veut que Philémon comprenne les raisons de sa requête pour vivre véritablement la réconciliation. Et cette situation, Cette lettre, cette situation d'appel à la réconciliation est un exemple extraordinaire pour nous rappeler l'œuvre de Christ, pour nous rappeler et pour enseigner le merveilleux plan de salut offert en Dieu. Paul présente un changement majeur opéré chez Onésime. En croyant en Jésus-Christ, il est devenu enfant de Dieu. Autrefois, il était inutile et maintenant, il est utile. Il y a tout un changement qui se transforme aussi dans ses actes, dans sa manière de vivre. Quelque chose nous échappe et le texte ne nous le dit pas, on ne sait pas comment, mais Onésime s'est trouvé en prison avec Paul et a rencontré le prisonnier de Jésus-Christ, Paul. Et c'est là qu'il vit une rencontre qui va le bouleverser, au-delà de la rencontre avec Paul, mais la rencontre avec Christ. Et il vit une conversion par la foi. Lui, l'esclave, plie le genou devant le maître, le vrai maître, et accepte son sacrifice et trouve en lui une réelle liberté. Il est réconcilié avec le Père. Il entre dans la famille de Dieu. Lui, l'esclave, fait partie maintenant de la famille de Dieu. On peut imaginer le bouleversement dans sa vie. Quelle image Onésime devait avoir de lui-même. Tu es sauvé, enfant de Dieu, et tu fais partie de la famille de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Et en s'appuyant sur la nouvelle nature d'Onésime, Paul propose à Philémon de ne plus le voir comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Par là, il lui rappelle qu'ils sont tous les deux au bénéfice de la grâce de Dieu et partagent tous les deux son besoin de pardon, d'amour. On lit au verset 15 et 16. À la rigueur, si tu peux changer de Dieu, encore une. Ouais, encore une. Et puis, on peut lire au verset 15 et 16. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Et il l'est particulièrement pour moi, et le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Et c'est quelque chose d'inouï. C'est vraiment quelque chose d'inouï pour l'époque, et ça l'est encore aujourd'hui. La Bible déclare que devant Dieu, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Et j'aime bien faire un peu cette adaptation pour que ça soit plus clair à nous aujourd'hui. Il n'y a plus ni pauvre, ni riche, ni beau, ni moche, ni grand, ni petit, ni extraverti, ni timide, d'intelligent ou de plus simple, de travailleur ou de sans emploi, de noir, de blanc, de jeune, de vieux, de célibataire ou de veuf. Devant lui, dans la famille de Dieu, il n'y a que des pécheurs qui ont été pardonnés. Et c'est un message qui est extraordinaire. Notre statut légal, ainsi que notre personnalité et notre âge vont rester. Hein. Moi, Jonathan, je vais rester avec mon âge, même si je fais partie de la famille de Dieu. Mais je suis enfant de Dieu et je suis au bénéfice de sa grâce comme quelqu'un qui serait plus âgé que moi ou plus jeune que moi. Onésime, en rentrant chez lui, était toujours esclave. Philémon, toujours son maître. Paul, toujours prisonnier, toujours en prison. Et pourtant, pour chacun d'entre eux, faisait partie de la famille de Dieu. Il n'y avait pas de différence. Que c'est rassurant. Que c'est rassurant, que ça me rassure. Ce n'est donc pas par nos moyens que nous sommes sauvés et que nous avons le lien avec Dieu. Ce n'est pas par la beauté ou l'intelligence, je ne sais quoi. Mais c'est parce que Christ nous a réconciliés avec le Père que nous rentrons dans la famille de Dieu. C'est un peu comme, allez, une entreprise de famille. Le père est directeur. La mère s'occupe et conseillère artistique, l'aîné est ingénieur, la jeune femme est comptable, et le petit dernier, il est commercial. Quoiqu'ayant chacun un rôle différent, ils font partie de la même famille, et quand ils partent en vacances, ils vivent ensemble ces activités, malgré leur statut différent. Et puis, voilà que... Et c'est différent de par rapport aux autres employés de cette entreprise, puisque eux ils ont des rôles, mais ils passent leurs vacances ensemble, et les employés ne passent pas de vacances avec leur patron. Enfin, normalement pas, peut-être vous, mais j'ai jamais eu l'occasion. Et pourtant, un jour, il y a un de ces employés qui gagne le cœur de la comptable, donc la fille du patron, et se marie avec elle, et intègre ainsi la famille partir de là, il a l'occasion de passer des vacances avec son beau-père et sa belle-mère, d'aller faire de la randonnée avec son beau-père, d'aller nager avec sa belle-mère, qui sait peut-être d'aller même se brosser les dents le soir avant de se coucher. C'est quelque chose de très sympa. Ensemble, il a l'occasion de vivre des choses que les autres employés ne peuvent pas vivre. Son statut reste le même, il restera employé. Son beau-père restera le patron, mais il peut bénéficier de la vie de famille. Il en est de même avec Dieu. Nous gardons nos différences, nos capacités, nos compétences, notre physique ou je ne sais quoi. Mais en devenant ses enfants adoptifs, nous sommes au bénéfice de l'amour de Dieu. Et il n'y a pas de distinction. Ici, comme nulle part ailleurs, Paul ne règle le sujet de l'esclavage. Il partage le message de l'Évangile qui est libérateur. En vivant l'Évangile, on voit l'incohérence de l'esclavage. Et il n'a plus lieu d'être. Et malheureusement, il a fallu des années avant que l'abolition de l'esclavage soit reconnue. Mais juste comme ça, pour une petite anecdote, pour illustrer un peu, de dire que l'Évangile est libérateur et qu'il abolit l'esclavage, il est intéressant de savoir que l'élément déclencheur d'un des fervents défenseurs de l'abolition de l'esclavage c'est un ancien vendeur d'esclaves qui s'est converti. Et cet homme, c'est John Newton qui a écrit « Amazing Grace ». Sa vie a été radicalement changée de vendeur d'esclaves, il s'est converti. Il a vu que c'était plus cohérent, que c'était pas cohérent du tout avec l'Évangile. Et il s'est battu pour l'abolition de l'esclavage. Mais mettons-nous à la place de Philémon. En accueillant Onésime comme son frère et non plus comme un esclave, on peut s'imaginer combien d'efforts ça va pouvoir lui coûter, combien de réflexes il aura habituels. Il devra lutter contre des habitudes, il devra changer son regard pour voir Onésime comme un frère. Et là, j'aimerais bien nous interpeller. N'avons-nous pas des regards, des réflexes qui créent des tensions et élèvent des distinctions dans l'Église, alors que nous devrions être nous considérer comme des frères et sœurs au bénéfice de la même grâce? Peut-être juste pour présenter un petit exemple. Des fois, on peut se sentir tout petit. On se sait enfant de Dieu, mais tout petit face à des aînés qui connaissent un peu plus la Bible. Ou peut-être vis-à-vis de personnes qui ont fait... Je vais prendre le micro comme ça. Oui. Ouais. Donc du coup, comme ça, Sarah, on n'aura pas les grésillements. Mais donc du coup... On peut des fois se sentir petit, de dire « mais moi je connais moins bien la Bible, moi je comprends moins bien, moi je suis plus jeune. » Mais j'aimerais bien encourager, de dire « non, il n'y a pas de distinction. Toi mon jeune frère qui connaît peut-être moins la Bible, eh ben, tu es autant aimé, autant sous la grâce qu'un aîné qui connaîtra plus la Bible. » Mais que cela ne nous pousse pas à ne pas vouloir grandir dans notre connaissance de Dieu. Quel regard portons-nous sur notre prochain? Nous avons vu le regard qu'on pouvait avoir dans l'Église. Nous sommes frères et sœurs et nous devons lutter contre des réflexes. Mais quel regard portons-nous sur notre prochain? Et peut-être malheureusement, comme moi, vous avez regardé ces hommes et ces femmes qui vivent sans foi ni loi avec dégoût. En s'élevant au-dessus, car notre vie est plus sainte, meilleure. Je ne dirais pas du coup que leur action serait donc pas condamnable, et je crois que Dieu les a en horreur. Mais je parle de mon regard, de notre regard, qui est absent de compassion, empli d'orgueil. Car moi, attention, moi je suis sauvé. C'est par la grâce de Dieu que je suis sauvé, et ces personnes méritent tout autant ce pardon immérité de Dieu. Peut-être êtes-vous comme en fuite. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus. Alors pourquoi ne pas goûter à la véritable liberté? Comme Onésime qui a vu sa vie transformée, je vous encourage à vous tourner vers Jésus. je vous encourage aussi, après le culte, à trouver des personnes que vous ne connaissez pas ou peu, pour les saluer, discuter. Je pense que c'est une démarche à prendre. Être acteur de la réconciliation demande de faire tomber les barrières. Tout comme Philémon doit faire preuve de grâce et d'accepter l'œuvre de Christ, de Dieu, dans la vie d'Onésime, nous sommes interpellés à reconnaître l'égalité dans la famille de Dieu et à ne pas faire de distinction. Et nous sommes également interpellés à avoir un regard de compassion, d'amour, de grâce. Et nous pouvons aussi jouer un rôle dans nos propres vies, mais également au sein de discussions, lorsqu'on nous parle de conflits, pour faire remarquer avec douceur la vérité de l'Évangile. Et ça donnerait l'occasion, de mettre à terre des barrières de notre interlocuteur. Participer à la réconciliation nous amène à faire aussi plus. Et c'est ce que nous voyons dans la suite, si tu peux tourner. Si tu peux changer de slide. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi, dit Paul. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Encore une fois. Voilà, super, comme ça on a le verset. Paul s'engage personnellement dans cette affaire. Et il demande à son ami de l'accueillir comme lui-même. Un peu comme si on pouvait conseiller quelqu'un. Tu rentres dans un club, dans une entreprise, d'une certaine manière, sa réputation est en jeu. Et il va même plus loin en prenant sa charge, tous les dégâts qu'aurait pu causer Onésime lors de sa fuite. Peut-être avait-il volé son maître, ou sinon sa simple absence pourrait entraîner des dépenses, car le travail n'avait pas été fait. Voici ce qu'on entend, ce que Martin Luther écrit à propos de ce passage de Philémon, si tu peux changer de slide. Nous voyons ici à quel point Saint Paul s'engage pour le pauvre Onésime, plaidant sa cause par tous les moyens à sa disposition. De cette manière, il prend la place d'Onésime, comme si c'était lui. Paul qui avait lésé Philémon, tout comme Christ a agi pour nous envers Dieu le Père, de même Saint Paul agit pour Onésime auprès de Philémon. J'estime que nous sommes tous ces Onésimes. Paul ne minimise pas les actes d'Onésime, mais il paye le prix tout comme Christ a payé le prix pour notre rébellion. Et c'est une interpellation qui est touchante. Paul va plus loin en rappelant à son ami qu'un jour aussi il était au bénéfice, qu'un jour il était comme un Onésime et qu'il était au bénéfice de la grâce de Dieu. Et l'apôtre fait ici référence à sa propre conversion, la propre conversion de Philémon. À combien plus forte raison Philémon, qui a été pardonné, ne devrait-il pas accueillir Onésime et le pardonner en retour? Et on voit peut-être le lien. Dans la quatrième demande du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En fait, c'est un peu comme une feuille de papier, comme cette feuille de papier. Paul montre en écrivant sa lettre, en fait, il ravive des souvenirs chez Philémon. Onésime n'avait-il pas fui alors que Philémon était peut-être un bon maître? Peut-être avait-il causé des dégâts? Peut-être avait-il volé tout l'argent qui a causé beaucoup de problèmes pour Philémon, de se dire « mais comment survivre la fin de l'année si on n'a pas notre argent de côté ?» Quelle honte le maître a dû-il porter ? Qu'est-ce que ça devait faire mal pour Philémon de lire cette lettre ? Peut-être, on ne sait pas, mais on peut imaginer la souffrance de se dire « aïe, il me reparle de celui-là qui m'a fait du mal ». Mais voilà que Paul rappelle qu'un jour également, Philémon a été un Onésime pour Dieu. Le poids de sa vie rebelle a été condamné, mais pardonné. Mais le pardon de Dieu, par la mort et la résurrection, il s'en trouve pardonné. Cet aspect concerne aussi l'autre côté de notre feuille. Et c'est là le mal que Philémon avait pu faire. le mal que Philémon fait. Et comme cette feuille qui est des deux côtés, c'est impossible de les diviser. Sur cette feuille est le mal que j'ai fait, le mal que Philémon fait, et de l'autre côté, ce que Onésime, ce qu'on a pu nous faire, me faire. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous pouvons tout de suite dire, oui mais attends, il m'a fait souffrir, ils m'ont humilié, elle m'a fait du mal. Et nous connaissons tous ces blessures dans nos vies, mais sont-elles fermées? Pendant combien de jours Philémon a pensé à son esclave fugitif? Combien de nuits s'est-il tourné d'un côté et de l'autre parce qu'il n'arrivait pas à dormir? Lui est-il arrivé de ces moments alors qu'il commençait à oublier, ou un simple élément anodin, on va dire quelqu'un qui rafle toute la bonne paye, eh bien, ravive la plaie, cette plaie qui n'est pas fermée. Comme sur cette feuille, ces deux faces sont liées. Nous ne devons plus tenir rigueur des fautes vécues pour être au bénéfice du pardon de Dieu. Nous avons besoin de venir à Christ et de demander son aide, et il le fera. Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour pardonner à mon frère, ma sœur, mon collègue, ma voisine, je ne sais qui. Tu vois ce qui m'est arrivé et combien je me sens mal, combien j'ai mal. Mais je veux croire que ton pardon est suffisant et que tu me donneras la force de pardonner. Et pour illustrer, c'est comme si on passait cette feuille dans le broyeur. Pardonnant, nous sommes au bénéfice du pardon de Dieu et Dieu referme la plaie. Et bien sûr, les marques restent, des fois ça tire, on sent que ça tire, il y a des choses que nous ne pouvons pas oublier, mais nous sommes et nous avons la paix en Dieu. Le pardon de Philémon ne se limite pas à la délivrance spirituelle, mais à une pratique, accueillir Onésime. Que serait le pardon si les actes ne suivent pas? Bien sûr, il faut des fois beaucoup de temps et d'autres fois, il nous faut se quitter en bon terme des relations. Mais il est temps de rétablir la relation. Pourquoi ne pas vivre vous-même cette expérience de la feuille? Vous pouvez noter sur un côté les choses qu'on a pu vous faire, qui vous ont fait mal, qui vous font mal, des cicatrices qui sont des plaies qui sont encore ouvertes. Et de l'autre côté, tout ce que Dieu vous a pardonné, tout ce que vous avez fait qui pourrait être mal contre Dieu. Demandez pardon à Dieu et acceptez-le et accordez le pardon avec l'aide de Dieu. Certaines blessures sont profondes, sont larges. Je vous encourage à trouver un frère, une sœur qui pourrait vous accompagner pour un rétablissement, pour vous aider sur ce chemin-là. Et c'est ça aussi la beauté de l'Église, ensemble nous avançons. Et peut-être avez-vous eu l'occasion de pardonner à quelqu'un dans votre cœur sans jamais avoir pris l'occasion d'aller voir cette personne pour se rétablir. Prenez votre courage à deux mains, votre amour et votre douceur pour en parler avec cette personne. Comme Christ s'est porté garant de la dette de Philémon, Paul se porte garant pour celle d'Onésime. L'évangile se manifeste concrètement, bien plus que des mots, des actes. Pardonner fait partie du processus de réconciliation. Et on aura toujours besoin de revenir au pardon, de demander pardon, de recevoir le pardon de Dieu et d'être à son bénéfice. Le croyant est appelé à pardonner et ainsi donc à être un ambassadeur de la réconciliation. Philémon, courte, discrète, mais pourtant tellement explosive. Elle nous appelle, au travers de cette lettre, Paul nous appelle à vivre l'Évangile, concrètement dans nos vies, à faire tomber les barrières, à pardonner, à nous engager dans la réconciliation. Et le salut offert en Jésus-Christ ne peut nous laisser de marbre. Dieu nous invite à participer à la réconciliation, premièrement dans nos vies, en faisant tomber les barrières, et aussi dans nos relations avec les uns et les autres, avec nos amis qui nous parleraient de tensions, de difficultés. nous pouvons partager cet évangile qui libère. Alors comme Paul, soyons des exemples vivants de l'œuvre de Dieu en Jésus et ne remets pas à demain, car en comptant sur Dieu aujourd'hui, fais tomber les barrières et pardonne. Merci.
On va prier, après on aura les annonces données par Luc.